France Inter. Dans Interception ce dimanche, il y a des femmes et des hommes face à la lourdeur de l'arbitraire, celui des empires ou celui du pouvoir autoritaire religieux. Ce pouvoir religieux, c'est celui de la République islamique, tombé comme une chape de plomb en 1979 sur les Iraniens et plus encore les Iraniennes. L'Iran et ses mollahs, visés depuis deux semaines par les frappes israéliennes et américaines, une source d'inquiétude, mais d'espoir aussi, pour ces femmes en exil, aux souvenirs douloureux et qui rêvent de retrouver un jour leur pays. Lui n'a aucune chance pour le moment de retourner aux États-Unis où il a travaillé, où il a encore des attaches. Nicolas Guillou, juge français à la Cour pénale internationale, dénonce l'arbitraire des empires, en l'espèce celui des États-Unis, lui qui vit depuis l'été dernier sous sanctions américaines pour avoir fait son travail à la CPI.
Interception. Marion Lourd sur France Inter.
Elles n'ont ni le même âge, ni la même histoire, ne viennent pas du même milieu. Et pourtant, comme la majorité des Iraniens, comme presque toute la diaspora française, ces 30 à 40 000 exilés, elles ont célébré fin février dernier la mort de l'ayatollah Khamenei sous les frappes américaines. Depuis, elles ont du mal à joindre leurs proches, mais elles espèrent voir peut-être le régime tomber. Le voile, la prière, la police des mœurs, Mariam n'a connu que ça, avant de décider soudain de tourner le dos à la religion, d'ajuster ses vêtements et de venir chercher la liberté en France. Ava, elle, s'était installée près de 30 ans avant. Aujourd'hui encore, elle craint de donner son vrai nom, mais elle se rappelle quand elle a quitté cette terrifiante République islamique où, comme elle dit, chaque respiration pesait une tonne. Voyage dans les souvenirs d'enfance et l'histoire.
Là, il y a du souvenir.
Cécile Bidot a tourné avec Ava les pages de son album photo.
Donc ça, c'était chez nous, à Téhéran. Nous, on habitait là, au premier étage. Là, je suis assise avec un cousin au bord de la piscine. Voilà, des anniversaires. Donc là, ma mère, ma grand-mère et ma tante. Et ça, c'était avant la Révolution aussi.
Voilà. Ça avait l'air d'être une vie assez légère, festive, et une éducation très ouverte, quoi.
Complètement. C'était une vie très douce, c'était une vie amusante, c'était une vie légère. Et puis, comme dit la blague, après, c'était le drame. Et ça, c'est déjà au tout début de la Révolution. Je suis dans notre jardin, donc je ne suis pas voilée puisque je suis chez nous. Cela dit, rapidement, dans les extérieurs, on ne pouvait plus se promener tête nue aussi parce qu'il y avait... Vous pouvez avoir des voisins qui vous dénonçaient et puis on n'avait pas du tout le droit d'être pas voilé à partir de 6 ans dans l'espace public. Et l'espace public, c'est partout où quelqu'un d'autre que votre maisonnée peut vous voir, quoi.
La première histoire, c'est celle d'Ava. Elle s'est choisie un prénom d'emprunt. Même après 44 ans passés en France, même en ayant les deux nationalités, la peur de parler à visage découvert demeure. Peur pour sa famille et ses amis restés au pays, mais aussi à cause des traumatismes du passé.
Je vous resserre un petit coup de thé.
Oui, je viens.
Alors, j'ai 52 ans, je suis née en Iran évidemment, je viens d'une famille relativement aisée, pas dans l'opulence dingue, mais une famille qui était relativement aisée. Moi j'ai grandi dans une famille complètement athée, dans une famille très ouverte, très à l'occidentale quoi.
À l'époque, l'Iran était une monarchie, hein. C'est l'époque du Shah que vous avez connue.
Oui. Alors, le chat, c'était pas Louis XIV. Hein. Je veux bien préciser, oui, très certainement, que ça devait être un gouvernement autoritaire. Dans ma peau d'enfant, moi, j'ai pas senti de chape de plomb, alors que mes parents n'étaient pas forcément les copains du chat. Alors que, sous la République islamique, chaque respiration pesait 1000 tonnes.
Bonsoir. L'Iran à la une de ce journal, bien sûr. Le calme est revenu à Téhéran ce soir, après la folle journée qui a vu le retour de l'ayatollah Khomeini.
12 février 1979.
Le régime moribond du Shah d'Iran a été achevé par deux jours de combats qui ont fait plus de 300 morts et 2000 blessés. Les militants islamiques sont dans les rues. Tout le monde crie « Allah Akbar, Dieu est le plus grand ». Après 2500 ans, la monarchie iranienne avait cessé d'exister.
Donc ça, c'est 1979. Est-ce que vous pouvez me raconter ce basculement ? Donc à l'époque, vous avez 6 ans ?
5-6 ans. Pour moi, dans mes souvenirs, il y a un été où tout bascule. Je voulais pas porter de foulard, mais il y avait des miliciens qui patrouillaient. Et donc ma mère a eu une idée, elle m'a coupé les cheveux très très courts, elle m'a collé un short. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux pas porter de foulard, cet été tu vas t'appeler Mamali.
Un prénom de garçon.
Un prénom de garçon. Donc j'ai été un garçon pendant l'été. Et la fillitude m'a rattrapée à la rentrée scolaire, quand on est allé acheter mon uniforme. Donc une blouse bleu clair et un foulard bleu marine. Ils avaient plusieurs buts. C'était d'endoctriner les enfants le plus tôt possible. La deuxième chose, c'était de repérer les gens qui pouvaient potentiellement être contre eux. Et pour ça, ils utilisaient les enfants pour faire la délation de leurs propres parents. C'était arrivé à un de mes cousins, on a le même âge. Et donc, dans son école à lui, ils avaient mis des tréteaux avec une planche et dessus, ils avaient mis des objets. Et donc, il y avait des objets de tous les jours. Mais il y avait aussi un tourne-disque, il y avait une bouteille de whisky. Et ils demandaient aux enfants de montrer les objets qu'ils avaient chez eux. Et quand les enfants montraient... de l'alcool, des disques de musique, ce genre de choses, ben, ils allaient chez eux, puis ils arrêtaient les parents. Je me souviens un jour, on avait des cours de religion, on avait une prof de religion, et elle nous faisait faire du coloriage. Et elle avait imprimé le mot « Dieu » en persan, « Khoda ». Et puis il fallait colorier à l'intérieur. Et moi, j'étais en train de colorier, et à un moment donné, je bave. Et je dis à ma voisine d'à côté, oh là là, Dieu, il a saigné bleu. Et là, elle m'a dit, oh, ce que tu viens de blasphémer, je vais le dire à la maîtresse, ils vont venir t'arrêter, c'est hyper grave et tout. Et moi, j'ai eu une des pires peurs de ma vie. Je lui ai promis tout ce que j'avais. J'avais une super belle trousse pour qu'elle se taise, quoi. Et je me suis dit, ça y est, quoi. Voilà, tes parents, ils vont mourir et ça va être de ta faute. Il y avait des histoires terribles quand j'étais petite. Ils ont lâché dans les rues des espèces de bonnes femmes qui étaient censées arrêter les autres femmes pour les rappeler à la loi. Et quand les filles avaient du rouge à lèvres, elles disaient « Viens ma sœur, je vais t'essuyer ton rouge à lèvres ». Et elles avaient un chiffon, il y avait du verre pilé dedans. Enfin, c'était horrible, c'était de la maltraitance dans la rue. On n'était pas à l'abri, au parc on n'était pas à l'abri, chez soi on n'était pas à l'abri, à l'école on n'était pas à l'abri, on était à l'abri nulle part.
Ce samedi 28 février fera donc date, le jour où les États-Unis et Israël ont massivement frappé l'Iran. Opération militaire conjointe donc israélienne et américaine, baptisée Epic Fury. C'est le nom que lui a donné le Pentagone.
Elle est belle.
Elle est belle, c'est sa photo qui s'affiche. Ouais. On dit comment, maman en persan ?
Maman.
Mariam, elle, a quitté l'Iran 30 ans après Ava. Le début de la guerre, c'est sa sœur, restée à Téhéran avec leur mère, qui lui apprend par téléphone, quelques minutes avant la coupure des communications.
Le réseau s'est coupé depuis le début de l'attaque.
C'est dur que ce soit dans le vide comme ça,
oui,
j'imagine.
Oui, c'est très dur, très très dur. Parce que là, je ne sais même pas... Si elles sont à Téhéran ou elles sont déjà quittées, et, bah, je ne sais même pas quel état elles sont. Alors, je m'appelle Mariam, et j'ai 38 ans et j'ai vécu en Iran pendant 27 ans.
Quand vous êtes née, c'était déjà la République islamique depuis 10 ans. Donc en fait, en Iran, vous n'avez connu que ça,
Oui.
Quand on voit qu'une seule chose, et on ne voit pas la différence, on ne se rend pas compte. Je priais, je faisais le ramadan, je faisais tout. Et ça a duré comme ça jusqu'à ce que je suis allée à la fac. Et après, j'ai quand même rencontré les gens qui pratiquaient pas, après les gens qui croyaient pas. Et je me suis rendu compte que je fais tout ça juste parce que j'ai grandi comme ça. Et du coup, j'imitais tout le temps. C'était jamais un choix. Et j'ai décidé de ne plus être religieuse. Ça a commencé à se montrer petit à petit, dans l'apparence, dans... Enfin, j'ai commencé à, par exemple, raccourcir les manches, porter les choses plus étroites, quoi. Des choses un peu débiles comme ça, mais qui montraient un petit peu qu'il y a quelque chose qui est en train de changer.
Et à l'extérieur, vous aviez des problèmes
Oui, je me suis arrêtée par la police d'Amorce. Parce que c'était l'hiver et je mettais un bonnet. Et je vous jure, il n'y avait même pas des cheveux qui dépassaient de mon bonnet. La façon qu'il comportait, c'était dégueulasse.
Désirez-vous une république islamique pour remplacer l'ancien régime ?
31 mars 1979.
Rares sont les Iraniens qui se seront risqués à voter rouge, c'est-à-dire non. Postés partout, les miliciens d'islam, en armes, veillent au maintien de l'ordre.
Je manquais.
Vous, les membres du clergé,
l'ayatollah Khomeini,
vous devez suivre le prophète et ses compagnons.
Premier guide suprême de l'Iran.
Vous devez vous servir des mosquées pour promouvoir l'islam et le mouvement islamique.
20 avril 1979.
Pour couper les mains des infidèles et défendre les faibles contre les puissants.
Et donc, Ava, à quel moment vous quittez l'Iran ?
Je suis partie un peu avant l'âge de 8 ans et demi. C'était en 82. C'était au tout début de la guerre Iran-Irak. Je prenais l'avion à 3-4 heures du matin, toute seule. Ma mère me précédait de 2-3 jours. Elle était à Paris pour m'accueillir. J'avais une robe jaune avec des petits pois, des petites fleurs noires que ma sœur m'avait cousues, qui était une robe à bretelles. Et par-dessus, j'avais la blouse réglementaire avec les chaussettes réglementaires et le foulard réglementaire. Et avant de partir, comme sortir de l'argent du pays, c'était ultra interdit. Ma mère avait acheté des billets de banque français au marché noir. Et elle les avait cousus dans mon slip. Je suis arrivée à l'aéroport d'Orly, c'était baigné de lumière. Et il y avait ma mère qui était là. Enfin, vraiment, c'était sauvé, quoi. C'est la première fois que je respirais depuis des mois, des années. Une sensation de...
Et ça, vous vous en souvenez vraiment de cette sensation ?
Ouais. Ouais. De cette sensation d'être arrivé enfin dans cet endroit où on est libre.
Comment ça se passe ensuite la vie en France ?
Alors déjà, en tant qu'enfant, la République islamique avait tellement pourri ma vie que pour moi, le premier exil avait été là-bas, entre l'Iran d'avant et l'Iran dont je suis partie. Mais quand je suis arrivée ici, j'étais hyper contente. J'étais hyper contente. Donc au début, on a habité à 4 dans une chambre de bonne qui faisait une douzaine de mètres carrés. Mais même là, il y avait une sensation de liberté, de bonheur. On allait se balader le soir, à la nuit tombée. On est arrivé un été où il faisait super chaud. On faisait des promenades nocturnes jusqu'à pas d'heure. On respirait, quoi. Je suis partie d'un pays où on pouvait pas montrer un bout de cheville, un bout de poignet, un bout de cheveux. Et je suis arrivée dans la France des années 80, où les femmes, elles faisaient du topless sur le Champ de Mars. C'était vraiment le pompon de la quintessence de la liberté. C'est-à-dire le pays où on vous fout une paix royale.
Oh,
Quand Mariam fuit l'Iran, elle vient de se marier avec un homme rencontré à l'université. Ils choisissent la France pour finir leurs études. Tous deux soutiendront à distance le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui éclate quelques années plus tard.
On a décidé de quitter l'Iran avec mon mari pour déjà découvrir vraiment un autre monde. Un autre monde dans lequel il n'y a pas ce genre de limites, ce genre de répression, ce genre d'inquiétude pour genre qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui.
Donc c'est la liberté que vous êtes venu chercher.
Bien sûr. Les premières années, je rentrais régulièrement chaque année. Et quand je rentrais, on ne pouvait même pas supporter le comportement des gens, même les gens ordinaires qui se permettent de venir vers toi disant que « Madame, il y a des chevaux qui dépassent de votre voile ».
Une épaisse fumée noire continue de s'élever sur la capitale iranienne, les suites d'intenses bombardements américains et israéliens sur des dépôts de carburant.
Vous voyez les explosions juste là, tout près. On voit la fumée.
En vrai, je connais beaucoup de gens, moi la première. Les bombardements, ça a été un soulagement. Alors ça peut paraître complètement fou de se dire t'es soulagé que ton pays natal se fait bombarder. Mais en réalité, c'est surtout que cette espèce de statu quo à l'intérieur duquel on tue dans le noir s'arrête. Et le mouvement qui a commencé pour que l'Iran puisse se libérer, il peut enfin continuer. Je suis abasourdie par le courage, malgré toutes ces rivières de sang, ils continuent à se battre. Et c'est fini le silence. L'Iranien soumis, vous l'aurez pu se terminer. Et ça, c'est, je suis heureuse de vivre pour voir ce moment-là.
Vous y croyez, là, que la démocratie est à portée de main en Iran ?
Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'était pas appris la démocratie. On n'a pas pratiqué. Du coup, ça prend du temps. Mais je suis toujours optimiste parce que, enfin, au début, il y avait beaucoup de bagarres entre les opposants. Au fil du temps, ça a été beaucoup moins. Mais il y a le potentiel d'avoir la démocratie.
Ava, je sais que la musique tient une place importante dans votre vie. Est-ce qu'il y a une chanson iranienne que vous avez envie de partager avec nous ?
La chanteuse s'appelle Hoideh. Et c'était vraiment une diva, elle était incroyable. Et la chanson s'appelle Gole Sangam, ça veut dire ma fleur de pierre. C'est encore une histoire d'amour contrariée, c'est terrible.
Gole Sangam, Gole Sangam. چی بگم از دل تنگم مثل آفتاب اگه بر من نتابی سردم و بیرنگم گل سنگم گل سنگم
Maintenant, c'est quoi vos espoirs alors pour votre pays ?
Iran est azad et abad. Ça veut dire un Iran libre et prospère.
Vous avez une fille aujourd'hui qui a à peu près l'âge que vous aviez quand vous avez quitté l'Iran ?
Oui.
Est-ce que vous espérez l'emmener là-bas, bientôt ?
De tout mon cœur. Les mollahs tombent, l'Iran est stable, on est les premières dans l'avion. J'ai envie de la présenter à ma famille, j'ai envie de lui montrer le pays où est née sa maman. Bien sûr que je l'emmène.
Iran, des voix dévoilées, témoignages recueillis par Cécile Bidot.
France Inter, Interception.
Et c'est à un autre type de voyage dans le temps que l'on vous invite maintenant. Nous voilà à la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas. Des bâtiments modernes, installés depuis plus de 10 ans, devant les dunes de la mer du Nord. Nous sommes en 2026, et pourtant, cela ressemble aux années 90 pour le juge Nicolas Guillou. Il parle même d'une mort civile, d'un monde qui se rétrécit. Impossible de séjourner aux États-Unis, lui qui y a des attaches. Impossible de réserver via des sites internet américains. Quasi impossible de payer en carte bleue. En cause, les sanctions qu'il subit depuis l'été dernier de la part des États-Unis pour des mandats d'arrêt, notamment contre le premier ministre israélien, suspecté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Le président Macron a écrit à son homologue le mois dernier pour demander une levée des sanctions pour lui, Nicolas Guillou, et l'ex-commissaire européen Thierry Breton. En vain jusqu'ici. Alors comme d'autres collègues de la CPI, le juge français résiste, défend l'état de droit et la démocratie et tente d'alerter Bruxelles sur la perte de souveraineté européenne. Sarah Guibaudeau l'a rencontré à La Haye.
Bonjour et bienvenue à la CPI.
Nicolas Guillou, vous travaillez ici depuis près de 2 ans maintenant ?
Oui, je travaille ici depuis 2024. J'ai été élu juge à la Cour pénale internationale en décembre 2023 à New York et j'ai pris mes fonctions quelques mois plus tard.
Alors vous dites élu, comment ça se passe ?
Eh bien nous sommes élus par les États. Nous devons d'abord être nominés par les États que nous allons, entre guillemets, représenter, même si on ne représente plus les États quand on siège. Pour ça, il y a une procédure nationale de sélection. Et ensuite, il y a une campagne pendant à peu près une année dans laquelle on est à la fois testé sur ses compétences juridiques, son expérience, et puis également sur notre vision de la Cour. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant un an, toute l'année 2023. Je suis parti à la rencontre des... À l'époque, c'était 123 États partis au statut de Rome, que j'ai rencontré un peu partout, à La Haye, à New York... ou ailleurs, et j'ai été élu à la fin de cette année-là. En fait, ici, on est dans une institution qui a, je crois, plus de 100 nationalités. Donc on est vraiment dans un environnement où on entend parler beaucoup de langues. Et puis on a aussi un personnel qui est de plus en plus représentatif du monde. On a commencé, comme beaucoup d'institutions, avec sans doute une surreprésentation des Occidentaux. C'est ce qu'on a eu beaucoup dans les organisations internationales. Et aujourd'hui, on a vraiment beaucoup plus de diversité dans l'origine géographique des personnes qui travaillent ici. Et c'est particulièrement vrai pour les juges, parce qu'en fait, nous avons... dans le statut, des obligations de représentativité des différentes régions du monde. Ce qui fait que, lors des élections des juges, les États doivent voter pour des juges venant de différents continents.
C'est la cantine ? La cafétéria ?
La cafétéria, vous voyez. C'est là que tout le personnel de la CPI déjeune le midi.
Et alors, vous, vous faites comment ? Vous n'avez plus de carte bleue pour payer ? Comment vous faites ?
Bah écoutez, ils prennent encore le cash, donc on peut toujours se débrouiller.
Parce que vos cartes bleues ont été coupées ?
En fait, après avoir été mis sous sanction, il y a toute une série de choses qui n'ont plus fonctionné assez rapidement. La première chose, c'est en matière bancaire. Ma banque française... m'a en fait invalidé ma carte très rapidement. La raison est très simple, c'est qu'en fait, j'ai découvert que les banques françaises ne commercialisent plus que des cartes américaines. Même s'il y a encore le réseau carte bleue, le réseau CB, en fait, les cartes sont toutes co-badgées aujourd'hui.
Quand vous dites co-badgées, c'est-à-dire que c'est toujours une carte Visa ou Mastercard, donc
exactement.
Il y a toujours adossé à une entreprise américaine.
Exactement, et donc la carte, elle est toujours au départ une Visa et une Mastercard. Et donc en fait, finalement, elle est toujours américaine. Donc les banques françaises ont donné aux Américains un monopole sur nos moyens de paiement. C'est assez vertigineux, c'est ce que j'ai découvert, et la conséquence pour moi, eh bien, c'est que j'ai plus de carte avec ma banque française. Ça va bien ? La salle d'audience. Alors, venez avec moi, je vais vous montrer comment elle est organisée. Alors, on va se placer au centre. D'abord, le banc des juges, vous voyez, nous sommes trois en première instance. Et il y a cinq juges pour la chambre d'appel. Donc vous voyez ce banc avec tous les juges. Quand on descend, on va dire, dans l'arène, hein, vous avez sur la gauche les bancs du bureau du procureur. Si vous vous mettez de l'autre côté, vous avez la défense. Et là, c'est la place qui est réservée aux victimes.
Et alors, sur le côté là, des bancs des victimes, il y a un rideau. Ça sert à quoi ?
Eh bien, le rideau qu'on peut fermer ici, il a pour but de protéger les témoins et les victimes, parce que beaucoup d'entre eux ont peur de témoigner. Ils ont d'abord subi des crimes absolument atroces, certains ont été torturés, d'autres ont été violés, d'autres ont vu des gens se faire massacrer devant eux. Et là, ils se retrouvent tout d'un coup face à une personne qui est accusée d'avoir commis directement ou ordonné ce type de crime. Donc, pour éviter d'être traumatisé, et pour éviter toute forme de pression, eh bien, nous avons développé tout un arsenal, en fait, de mesures pour les protéger. Mais vous pouvez d'ailleurs voir que, au-dessus du témoin, vous avez les bancs pour le public. Et ça, c'est une différence avec une salle d'audience d'une juridiction nationale où on est vraiment dans la même pièce. Ici, le public est au-dessus et il est derrière des vitres. Parce que de cette manière, en fait, il ne voit pas directement le témoin. Et le témoin ne peut pas être soumis à une forme de pression de tout un groupe du public. Le public a accès à ce qui se passe, puisqu'il y a des caméras partout.
Les audiences sont filmées d'ailleurs, elles sont accessibles en vidéo.
Absolument, elles sont filmées, elles sont diffusées quasiment en temps direct, sauf quelques rares audiences qui sont en huis clos pour la protection des victimes. Mais sinon, toute personne, tout autour de la planète, peut suivre les procès.
Et ce qu'on voit là au-dessus aussi, à l'étage, derrière des baies vitrées, ce sont les interprètes ?
Toutes nos audiences sont traduites dans les deux langues de travail de la Cour, l'anglais et le français, mais elles sont aussi traduites dans la langue de l'accusé. Donc vous avez parfois plusieurs langues en temps réel, et vous avez même parfois des témoins qui vont témoigner dans une autre langue, donc on peut facilement se retrouver à avoir quatre langues et quatre traductions, d'où le fait qu'on a des audiences qui sont plus lentes.
All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte.
Je voudrais sans plus tarder demander au service de sécurité de faire entrer le détenu, s'il vous plaît.
Merci, monsieur le président. Je réponds au nom de Thomas Lubanga Dilo. Je suis né le 29 décembre 1960 en République démocratique du Congo.
Le premier jugement qui a été rendu par la Cour pénale internationale, c'était en 2012. C'était un chef de guerre congolais.
Absolument, c'était le procès de M. Lubanga, qui était un dossier où nous avions notamment des enfants soldats.
Et l'accusé a été condamné, et il a purgé sa peine d'ailleurs. Alors on a parlé tout à l'heure des États qui vous ont élus. Aujourd'hui, ils sont 125, si je ne me trompe pas, signataires du traité d'adhésion à la Cour pénale internationale. Il y a quand même de grands absents. Il n'y a pas les États-Unis, il n'y a pas Israël, il n'y a pas la Russie.
Vous savez, c'est un statut qui est dynamique. Nous avons commencé, quand nous avons ouvert, avec 60 États. Et puis au fur et à mesure des années, il y a des États qui ont rejoint la Cour pénale internationale. Le projet de la CPI, c'est un projet qui est ancien et c'est un projet à très long terme. L'idée était là depuis un moment, mais évidemment, elle questionne la souveraineté des États. Donc il a fallu probablement beaucoup de souffrances humaines pendant la Seconde Guerre mondiale et après, les génocides des années 1990, pour convaincre assez d'acteurs dans la planète de créer cette cour qui elle-même aura la capacité d'intervenir quand les États n'ont pas la possibilité ou n'ont pas la volonté de juger les auteurs des crimes les plus graves.
Alors il y a la phase de procès, puis le jugement qui se déroule ici dans cette salle d'audience. Et après, il y a la phase des réparations. En tant que juge, vous siégez aussi dans une chambre de réparation. Expliquez-nous en quoi cela consiste.
Nous avons d'abord la possibilité pour les victimes de participer à l'audience et puis ensuite de demander des réparations. Mais nous avons, et c'est la particularité de la CPI, la possibilité de faire des réparations qui sont soit individuelles, c'est-à-dire pour chaque victime prise séparément, ou des réparations qu'on appelle collectives. Ça peut par exemple être un lieu de mémoire qui est créé, ça peut être des programmes de soutien psychologique, ça peut être des programmes de relance économique. On a aussi, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, un fonds au profit des victimes.
Qui est alimenté par les États.
Exactement, qui est alimenté par les États et qui permet le paiement de ces réparations quand les condamnés n'ont pas les moyens de les payer, ce qui est le cas à peu près systématiquement dans les procédures que nous avons eues. Maintenant, il a des moyens qui sont insuffisants par rapport à la taille de nos dossiers.
Près d'un millier de personnes travaillent ici à la CPI, dont 400 au bureau du procureur chargé des enquêtes. Nicolas Guillou est l'un des 18 juges.
Bonjour. Bienvenue dans mon bureau. Là, vous pouvez voir qu'il y a un cadre avec toutes les signatures des procureurs américains avec lesquels j'ai travaillé quand j'étais magistrat de liaison aux États-Unis.
Il date de quand, ce cadre ?
2015.
Vous avez des attaches personnelles aussi avec les États-Unis. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus y aller ?
Aujourd'hui, je ne peux plus y aller. C'est assez ironique puisque j'ai quand même beaucoup travaillé avec eux. On a fait beaucoup de coopération sur des dossiers particuliers, que ce soit en matière de lutte antiterroriste, de lutte anticorruption ou autre. Ils m'ont même accepté à Guantanamo deux fois. Donc, c'est un pays avec lequel j'ai eu l'occasion de beaucoup faire progresser la coopération.
Alors, on va revenir un petit peu à la source de vos ennuis actuels. On a parlé de votre rôle à l'audience pour les réparations, mais vous présidez aussi une chambre préliminaire.
Donc ça, c'est la première phase. Ça correspond un petit peu à la phase de l'instruction dans notre système national.
La chambre préliminaire que vous présidez est chargée de la situation en Palestine. Ça, c'est quelque chose que vous ne voulez vraiment pas évoquer avec moi. Vraiment, devoir de réserve absolue.
Oui, les juges ne s'expriment pas sur les situations dont ils sont saisis. Et si un juge s'exprime et donne son avis sur toute une série de questions de droit ou de fait, eh bien, son impartialité pourrait être mise en cause.
Je vais donc faire un petit rappel. En novembre 2024, vous avez, à la demande du procureur, émis plusieurs mandats d'arrêt. Un contre Mohamed Deif, le chef de la branche armée du Hamas, pour son rôle dans l'attaque du 7 octobre 2023. Il a été tué depuis par l'armée israélienne. Et vous avez délivré deux mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, et son ministre de la Défense de l'époque, Yoav Gallant, pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre présumés commis après le 7 octobre. Ils sont notamment suspectés d'avoir utilisé la famine comme arme de guerre à Gaza. C'est pour avoir émis ces mandats d'arrêt que vous avez été placé sous sanction par les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutiez ?
Alors, c'est pas la première fois que les élus de la Cour pénale internationale, que ce soit procureur ou juge, sont placés sous sanction. Il y avait déjà eu des sanctions en 2020.
Ces sanctions avaient été prises à la fin du premier mandat de Trump et levées par Joe Biden.
Oui, absolument. Cette fois-ci, juste après la prise de fonction du nouveau président des États-Unis, un executive order a été décidé dans le cadre duquel plusieurs personnes ont été mises sous sanction par vague. Donc il y a d'abord eu le procureur de la Cour, puis il y a eu quatre juges en juin 2025, puis deux nouveaux juges et deux procureurs adjoints en août 2025, c'est le moment où j'ai été mis sous sanction, et deux nouveaux juges de la Chambre d'appel ont été mis sous sanction en décembre dernier.
Comment est-ce que ces sanctions se manifestent ?
Le premier volet, c'est le gel des avoirs aux États-Unis. Donc tout compte bancaire ou propriété ou autre qui est sous juridiction américaine est gelé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains acteurs financiers qui gèlent les avoirs, même en dehors des États-Unis, parce qu'en fait, ils ont pris l'habitude de faire ce qu'on appelle de l'excès de zèle, et donc de geler les avoirs. La raison est assez simple, c'est qu'en fait, les personnes sous sanction, habituellement, ce sont des terroristes d'Al-Qaïda et Daesh, des kleptocrates de pays autoritaires et des trafiquants internationaux stupéfiants. Eh bien, il y a des banques qui font aujourd'hui la même chose avec nous, avec les juges de la CPI, ce qui est un peu paradoxal. Le deuxième volet, c'est l'interdiction de se rendre sur le territoire américain. Ça vaut pour les personnes sanctionnées, mais ça vaut aussi pour leurs familles, conjoints et enfants. Et si vous avez des membres de votre famille qui sont aux États-Unis quand vous êtes sous sanction, ben ils sont immédiatement expulsés. Mais je dirais encore que ça, ce deuxième volet, c'est, à nouveau, c'est pas le plus gênant. Celui qui est le plus impactant, c'est l'interdiction à toute personne physique ou morale de fournir des services à une personne sous sanction. Lorsque vous avez un compte, par exemple, auprès d'une entreprise américaine, alors ça a été le cas pour PayPal, pour Airbnb, pour certaines adresses mail, Booking ou autres, enfin toutes les plateformes qu'on a l'habitude aujourd'hui d'utiliser presque tous les jours, eh bien tout d'un coup votre compte ferme.
Tout ça vous ramène donc 30 ans en arrière dans votre mode de vie.
On vit finalement quand on est sous sanction comme dans les années 90. Ce qui est assez surprenant avec la situation que je vis, c'est que je suis devenu un cobaye du déficit de souveraineté en Europe. Le plus important, c'est certainement les moyens de paiement. Je me suis retrouvé dans une gare aux Pays-Bas pour prendre un billet de train. Eh bien, au guichet, il y avait un très joli signe qui expliquait, un, no cash, donc on ne peut pas y payer en espèces, et qui listait ensuite les logos de tous les moyens de paiement que nous pouvions utiliser. Pas un seul n'était européen. Ils étaient tous américains ou chinois. Nous sommes rendus compte dans les années 2020, pendant le Covid, que nous étions totalement dépendants de la Chine et l'Inde sur les médicaments. En 2022, nous nous sommes rendus compte que nous étions totalement dépendants du gaz russe pour notre énergie. Eh bien aujourd'hui, avec les sanctions américaines qui se retournent contre les Européens, on se rend compte qu'on est totalement dépendant des États-Unis en matière bancaire et en matière numérique. L'indépendance de l'Europe, et j'ai envie de dire l'état de droit en Europe, dépend de cette souveraineté économique. Ma collègue canadienne. Et voici ma collègue Kimberly Prost.
Bonjour.
Et Kimberly Prost a été mise sous sanction en même temps que moi, au mois d'août dernier. Et elle expérimente aussi la coupure d'un certain nombre de services, c'est vrai, non?
Oh ouais, c'est très difficile, beaucoup de choses différentes. Les sanctions ont parfois des conséquences très inattendues. Par exemple, un soir, je suis rentrée chez moi et j'ai demandé à Alexa, l'assistante vocale d'Amazon, mettre à la musique. Et elle a fait « tonton ». Elle ne m'a plus répondu.
Alexa ne vous répond plus?
Non, non, silence. C'est vraiment une époque différente pour nous. Hein?
Est-ce que vous alliez de temps en temps aux États-Unis ou vos enfants ou...
All the time, because I lived,
oui, tout le temps, parce que je viens de Winnipeg.
I come from Winnipeg. The border is very
c'est tout près de la frontière.
So we would
donc on y va en vacances en famille, ce sont nos voisins. C'est difficile d'accepter quand je rentre chez moi au Canada de ne plus pouvoir passer la frontière pour aller aux États-Unis, car ça fait partie de mon enfance. Et si j'ai choisi d'en parler publiquement, c'est parce que, certes, ça me rend la vie quotidienne difficile, pénible, mais ce qui est grave et que les gens doivent savoir, c'est que c'est une attaque contre l'état de droit, contre l'indépendance des juges, une attaque directe du travail de cette cour qui est si importante. Donc quand c'est arrivé, ça m'a vraiment choquée. Je ne vais pas me laisser intimider, je vais continuer, mais les gens doivent savoir ce qui est fait aux juges pour tenter d'influencer leurs décisions.
Et pour moi, ce n'est pas juste.
Merci beaucoup.
Je m'excuse, mon français n'est pas parfait, mais je sais.
Mais il est très bon. Bye bye. Vous voulez qu'on aille prendre un café?
Avec plaisir.
En sortant du bureau de Nicolas Guillou, on remarque dans le couloir des téléphones portables posés au sol devant la porte d'un bureau. C'est une mesure de précaution car les membres de la CPI savent qu'ils sont espionnés par certains États.
Nous allons rencontrer Paulina Macida. Elle est avocate et elle dirige le bureau de conseil public pour les victimes. Bonjour Madame Macida.
Bonjour. C'est tranquille aujourd'hui, normalement, il y a plein de gens. Je pense que le temps ne favorise pas.
Il pleut dehors, il pleut comme on peut le voir derrière les grandes baies vitrées. Paulina Macida, vous êtes avocate,
oui.
Vous êtes italienne, et à la Cour pénale internationale, les victimes doivent pouvoir se faire entendre. Et ça, c'est le rôle du bureau que vous dirigez depuis sa création en 2005.
Et notre rôle, c'est notamment de suivre les procédures et de représenter les victimes. Je peux peut-être en citer un ou deux. Les premiers, c'est un des premiers victimes que j'ai représenté dans l'affaire Lubanga. C'était un jeune garçon qu'à l'époque il avait 15 ans, qui maintenant est un jeune adulte et qui a réussi à aller à l'université alors qu'il était un enfant soldat et qui maintenant a fait l'université, il enseigne, il est professeur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vous appelle maman. Hein.
Alors pour avoir un procès, il faut que les suspects soient arrêtés. Il y a beaucoup de mandats d'arrêt qui ne sont pas exécutés. Là, par exemple, le mandat d'arrêt contre M. Netanyahou,
ouais,
qui vaut des sanctions au juge. Est-ce qu'on a l'espoir qu'il soit suivi des faits ?
Oui, effectivement, un procès devant la Cour ne peut pas être en l'absence de la personne accusée. Et donc, tout se base sur la coopération des États. Il est évident que, comme vous le disiez, le système peut apparaître peut-être inefficace parce que, bon, on n'arrive pas à prendre les suspects. Il est aussi vrai que l'histoire nous enseigne qu'il y a des cas dans lesquels on ne pensait pas de pouvoir prendre des accusés, Milosevic, par exemple, ou même des autres. Et ça est arrivé.
Est-ce que c'est justement parce que la Cour fait de mieux en mieux son travail? On a dit pendant longtemps, ouais, il y avait surtout des dirigeants, enfin, c'était que des dirigeants africains.
Absolument.
Là, il y a des mandats d'arrêt qui sont pris contre Vladimir Poutine, ouais, Benjamin Netanyahou. C'est ça qui fait que vous êtes de plus en plus attaqué aujourd'hui?
Je suis d'accord avec vous. Probablement, la Cour est aussi attaquée parce que la Cour, même si les gens disent que non, a quand même un impact contre l'impunité, contre l'avancée des non-droits, contre l'autoritarisme, contre le populisme. Voilà, il y a un idéal de justice qui continue et qui est vécu chaque jour ici à la Cour. Et ça, peut-être, c'est un danger pour quelqu'un ou c'est quelque chose qui ne plaît pas. Et donc, la Cour reste un phare pour beaucoup de gens. Et les personnes qui travaillent à l'intérieur de la Cour, les juges, le staff, n'importe qui, le savent.
Là, nous sommes dans un très long couloir qui relie au rez-de-chaussée et au premier étage les 6 bâtiments de la cour. Les gens l'appellent les Champs-Élysées. Et on va retourner voir le juge Nicolas Guillou dans son bureau. Donc 11 magistrats aujourd'hui sous sanctions américaines. Il y a d'autres sanctions ?
D'abord, il y a eu des cyberattaques contre la Cour pénale internationale. Et puis ensuite, il y a aussi des juges qui sont sous mandat d'arrêt de la Fédération de Russie et qui sont visés par des demandes d'arrestation tout autour de la planète.
Pour quel motif ?
Pour les décisions qu'ils ont ou auraient prises par rapport à la situation en Ukraine.
Et ça représente combien de magistrats ?
C'est, il me semble, 8 magistrats qui sont visés ou anciens magistrats de la Cour.
Donc en fait, si je calcule bien, quasiment tous les juges sont sous sanction d'une manière ou d'une autre.
Ben, presque tous, parce qu'il y a certains juges qui sont visés à la fois par des sanctions américaines et par des mandats d'arrêt russes. Vous voyez, le monde se rétrécit beaucoup pour certains de mes collègues.
Alors, la volonté, clairement, c'est de faire pression. J'ai envie de dire, tout bêtement, est-ce que ça marche ?
Les magistrats de la Cour pénale internationale ont réagi de la même façon. Nous tenons et nous tiendrons. Alors ce type de pression a évidemment vocation à faire peur, et on le voit de plus en plus, il est brandi comme une menace vis-à-vis de juges nationaux. Vous avez eu des juges au Brésil qui ont été mis sous sanction. Et ce climat de peur, il peut amener un certain nombre d'acteurs, de décideurs publics, à modifier leurs pratiques. C'est bien ce qui est voulu avec ce type de sanctions. C'est cette peur que nous devons refuser. Parce que si jamais c'est la peur qui gagne les juges, les procureurs, les avocats, mais aussi, pourquoi pas, les députés, les membres d'exécutifs nationaux, les ministres, les commissaires européens, les diplomates, eh bien, si ces gens-là ont peur, ils vont modifier leurs pratiques. Et ça veut dire, en fait, que nous n'avons tout simplement plus de démocratie. Nous avons eu plusieurs décennies dans lesquelles on a fait énormément avancer la justice internationale, la coopération entre les juges, et derrière ça, en fait, la possibilité de poursuivre les criminels les plus graves. Eh bien, aujourd'hui, tous les progrès que nous avons faits sont remis en cause. Justement parce que nous avons toute une série d'acteurs qui préféreraient qu'il n'y ait pas de justice. Eh bien, c'est ça, en fait, que nous représentons. C'est justement les limites au fait du prince de certains États, à la raison d'État, au nom de la dignité de l'être humain, au nom de la dignité des victimes.
Et ça illustre une nouvelle fois ce nouvel ordre international avec le retour des empires.
Les empires contre-attaquent. La justice est attaquée, mais il faut tenir. Il faut tenir parce que nous ne sommes pas là pour décider qui doit gouverner le monde. Nous sommes là juste pour dire qui a commis des crimes.
Nicolas Guillou, le juge français dans le viseur de Washington. Un reportage de Sarah Guibaudot pour Interception avec Florent Bujon à la prise de son. À la production cette semaine, il y avait Hélène Chevalier et Antoine Gignot. La réalisation est signée Lucie Lemarchand. Martine Messonnier est chargée de programme sur l'émission. Merci à Pierre Plantin pour la documentation musicale. Et c'est Théo Delobader et Loïc Frapsos qui assuraient le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, au bout du monde et au coin de la rue.